France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ici, on mélange les styles, on fait dialoguer les mondes et on invite celles et ceux qui bousculent nos habitudes. Ce soir, je reçois une invitée qui a le don pour transformer une actu complexe en une vidéo limpide et qui parvient à être à la fois pédagogue, drôle et cash. Juriste de formation, créatrice par conviction, elle est devenue en quelques années une des voix qui compte sur YouTube. Sally est notre invitée. Et là, forcément, on a des tonnes de questions. Comment on garde la tête froide quand on décrypte l'actualité sur les réseaux? Comment on résiste à l'algorithme qui voudrait qu'on crie plus fort que les autres? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment survivre à Internet quand on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Bref, préparez-vous, on va parler de son parcours, d'indépendance, de business model et même de Better Call Saul, car on ne parle jamais assez de cette série. On conclut la semaine avec Sally, une heure à la régulière, c'est maintenant.
France Inter. Régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Sally.
Bonsoir Mehdi.
Comment ça va?
Écoute, ça va très bien. Merci pour cette très belle introduction.
Écoute, je suis content que ça te plaise.
Ouais,
je suis très content de te recevoir. Ça fait longtemps que je suis ton travail, que je te regarde. Et déjà, je me posais un peu la question. Alors, il y a une question que je déteste poser, c'est...
Dis-moi.
Est-ce que tu peux te présenter? Donc, je ne vais pas la poser, mais un peu quand même. Comment tu te présentes, toi? Est-ce que tu te décris comme une journaliste, comme une créatrice de contenu, comme une personnalité engagée? Est-ce que tu arrives à mettre une étiquette sur ce que tu fais?
C'est très difficile. C'est très compliqué. Je pense que c'est l'une de mes plus grosses problématiques. C'est avoir du mal à me coller une étiquette parce que tout ce que je suis, c'est justement anti-étiquette. Je touche à tout, je prends plaisir à toucher à tout. Et c'est vrai qu'en France, on a l'habitude de mettre les gens dans des cases et à ce que tout soit cadré. Et je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas dans ma personnalité, ce n'est pas dans ma nature. Donc, c'est une colle. Cette question, c'est une colle. Et vraiment, très sérieusement, même dans mes rendez-vous pro, on me dit, mais tu te présentes comment? Je sais pas, c'est Sally.
Qu'est-ce que tu dis à tes parents quand ils demandent ce que tu fais dans la vie?
Ah, alors pour mes parents, il faut que ce soit un peu pompeux quand même.
Donc qu'est-ce que tu leur racontes?
Écoute, mon père est très familier avec mon travail. Il regarde ce que je fais, il me donne mon avis, il m'aide parfois. Donc il sait que je décrypte l'actualité, il sait que je fais des interviews et il sait que je mets du cœur à l'ouvrage. Ma maman, c'est différent, elle voit ça comme ma fille est sur les réseaux.
Et, mais elle le voit d'un bon ou d'un mauvais œil?
D'un bon œil parce qu'elle voit que j'essaye d'apporter quelque chose quand même de pédagogique, de l'edutainment.
Oui.
C'est ça ce que je dirais que je fais. Je fais de l'edutainment. Donc, c'est de la pédagogie, mais c'est du divertissement aussi, parce qu'il y a quand même tout le côté lifestyle un peu féminin que j'assume entièrement.
Ouais, justement, je l'ai un peu dit. Tu as une formation dans le droit, un master
totalement.
2, si je ne
un
dis pas.
Un master 2 en droit pénal et sciences criminelles, tout droit de la faculté de Strasbourg.
Voilà. C'est important de le dire. Donc, rien a priori qui te prédisposait à faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que, mine de rien, cette formation-là, elle t'aide dans ce que tu fais? Est-ce que tu as l'impression qu'elle t'a donné une forme de bagage technique qui te permet aujourd'hui de faire mieux ton travail?
Ah mais totalement, mais en fait c'est même la racine de ce comment j'ai réussi sur les réseaux sociaux, entre guillemets, parce que les gens m'ont connu, quand je dis les gens, c'est vraiment la totalité, donc au-delà de la communauté féminine, la communauté masculine aussi, c'est là où j'ai vraiment explosé. Oui. C'était avec mes décryptages sur des affaires judiciaires.
Oui. C'est comme ça.
Alors j'avais commencé à la base avec des vidéos plus beauté, surtout cheveux naturels pour femmes afro.
Ouais.
Et puis justement, comme je sortais de mon master 2 et que j'étais en VIE à Londres pendant un an, voire deux, pour préparer mon barreau, en fait je nageais dans la jurisprudence matin, midi, soir pour préparer mon examen, tu vois. Et donc à un certain moment donné, je me souviens très bien, c'était lors de l'affaire MHD quand c'était sorti.
Oui. Il y avait... Donc le rappeur.
Exactement. Et il y avait des questions. Ben, tout le monde se posait plein de questions sur les réseaux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ce genre de vulgarisation juridique. T'es, aujourd'hui, maintenant, c'est très répandu. Tu as même, comment il s'appelle, Mazdak
sur TikTok. Le fameux Mazdak.
Le fameux Mazdak, tu vois. Mais avant, il n'y avait pas ça. Et je me suis dit, mais tiens, je vais faire une vidéo pour leur expliquer pourquoi MHD peut se retrouver en détention provisoire, ce que ça signifie, etc. Et je te promets que c'est une vidéo que j'ai posté, je sais même plus, c'était un vieux jour à 23h, en me disant, bon allez, je la poste comme ça pour aller 10 000 personnes qui me suivaient, et bam,
c'est
parti.
Est-ce qu'on peut juste rappeler l'affaire MHD pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas? C'est une MHD accusée de meurtre à l'époque.
Exactement.
C'est ça,
voilà. C'était une rixe, visiblement, qui avait terminé en un assassinat, en tout cas une mort. Mais je pense que ça a été requalifié,
oui,
ça
oui.
A été totalement requalifié en assassinat. Et le rappeur MHD faisait partie des noms des personnes suspectées dans cette affaire.
Exactement.
Et il avait été placé en détention provisoire à l'époque. Et personne ne comprenait comment c'était possible. Et j'ai expliqué, je me souviens dans cette vidéo, que le code de procédure pénale le permet, tout simplement. Mmh. Et puis j'avais détaillé les différents éléments à connaître. Et la vidéo avait fait un carton plein. Et je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire que ça intéresse les gens. Moi, je pensais que c'était vraiment une vidéo pour les quelques juristes présents sur YouTube qui allaient regarder ça. Et puis, en fait, pas du tout. Et je pense que ça, c'est une leçon que j'ai apprise vraiment de ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux. Les gens aiment le savoir. Je pense qu'on passe notre temps à dire...
On sous-estime parfois la curiosité du public. Je suis d'accord.
Tu vois, et surtout même des jeunes. On part du principe que les jeunes sont un peu bébêtes, qui s'intéressent à rien, qui sont pas engagés. Moi, je trouve que c'est complètement faux. Alors, bien évidemment, le divertissement pur l'emporte toujours. Mais les gens sont passionnés aussi de savoir et de culture.
Tu as dit quelque chose aussi... Au début, tu as commencé avec notamment des vidéos beauté qui s'adressent notamment aux femmes afro. Et ça ouvre aussi un sujet. Je ne sais pas si tu te considères comme une influenceuse. En tout cas, tu es une créatrice de contenu noire. Et mine de rien, il y a quand même, on peut le dire, une forme de manque de diversité aussi.
Oui.
Y a beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui. Il y a évidemment des créateurs de contenu racisés. Il n'y en a pas tant que ça. Ils ne sont pas toujours mis en avant. J'ai même l'impression que parfois, dans les algorithmes, je les vois un peu moins. En tout cas, que c'est... un peu plus compliqué. Est-ce que tu te sens aussi investi presque d'une mission là-dedans ? Et comment tu analyses un peu le marché, j'ai envie de dire ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là, en tout cas une faible représentation de la communauté noire sur YouTube.
Sur YouTube et sur tous les réseaux, mais en fait, tu sais, c'est quelque chose d'assez simple, je pense. Maintenant, le problème, ce qui est gênant, c'est que quand, entre guillemets, tu vas être, je sais pas, une influenceuse beauté qui veut uniquement parler aux peaux noires ou aux cheveux afro, ou là, c'est pas forcément un problème si ton contenu n'est pas poussé à d'autres communautés, comme si tu veux être vraiment spécialisé uniquement, par exemple, beauté noire. Mais quand tu fais un contenu, effectivement, qui s'adresse à tout le monde, l'algorithme, c'est mon cas et le cas de plein d'autres, plein d'autres créateurs ou créatrices, l'algorithme effectivement ne te pousse pas et tu te retrouves à devoir soit élargir, enfin te forcer à élargir tes sujets ou forcer le trait ou alors devoir faire des featuring, hein, donc de devoir aller dans les vidéos des autres pour t'ouvrir aux autres communautés. Mais c'est vrai que sinon tu peux te retrouver enfermé dans une niche. Moi de mon côté, j'ai eu la chance avec la rigueur et la consistance, parce que je passe ma vie à poster. Oui. Je suis très sérieuse dans mon travail et les sujets que j'aborde à la fin, c'est de la géopolitique, c'est de l'actualité, ça intéresse tout le monde. Donc au fil du temps, il y a plein de gens qui soient issus de la communauté blanche, communauté arabe, toutes les communautés se sont retrouvées dans mon contenu. Et au-delà du côté ethnique, c'est le côté âge, moi, qui m'impressionne de plus en plus. Il y a des gens de 12 ans qui me suivent et il y a des personnes âgées de 80 ans qui me reconnaissent dans la rue. Et c'est là où je me dis quand même, tu vois, encore une fois, ce contenu-là, il est trans-âge, trans-identité, il parle à tout le monde. Et donc petit à petit, l'algorithme s'y habitue. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus forcément ce problème. Je vais le retrouver peut-être dans les opportunités que je vais avoir, mais en termes de vues, je peux plus venir aujourd'hui à ton micro te dire que je suis victime de l'algorithme. Non, l'algorithme, maintenant, il sait qui je suis. Mais ça a été difficile. C'est
YouTube
compliqué.
YouTube sait qui est sale.
YouTube me connaît.
On parlait juste d'identification. Est-ce que toi, quand tu as eu justement des gens qui t'ont donné envie de faire ce que tu fais, des gens à l'écran dans lesquels tu t'es senti proche ou pas vraiment?
À l'écran, non.
Ouais.
Sur YouTube ?
Oui, sur YouTube, non, ou sur les réseaux.
Non, il n'y a pas grand monde qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux. Maintenant, au quotidien, il y a des filles que je regarde, que j'adore encore. Je cite tout le temps les mêmes, hein, mais que ce soit Black Beauty Bac, qui était l'une des premières blogueuses afro. Tu vois, il y a un petit côté héritage, tu vois. C'était un peu notre maman à tous. Puis sinon, franchement, je sèche un peu.
Ouais.
Il n'y a pas de créateur de contenu que je suis vraiment au quotidien. Il y en a que j'aime bien, mais...
Mais en tout cas, il y avait aussi un problème d'identification pour toi. Il n'y avait pas grand monde qui te ressemblait peut-être sur les réseaux à l'époque et qui pouvait te donner envie de faire ce que tu fais aujourd'hui.
Oui.
Hormis celle que tu as citée.
C'est très compliqué aujourd'hui, mais c'est une réalité, tu vois. Je me souviens du discours de Théodora, par exemple, aux Flammes, quand elle disait ce trophée, c'est pour toutes les femmes noires. Elle a utilisé le mot alternative.
Je crois quelque chose comme ça.
Toutes les femmes noires bizarres, quelque chose comme ça.
Elle a dit quelque chose comme ça.
Et ça m'a touchée parce que je voyais dans son discours toujours cette complexité, cette difficulté à avoir grandi avec une petite ce petit rôle modèle, cette petite figure d'exemple, tu vois, souvent, et je pense que Théodora, ça a été le cas, enfin, il faudra lui poser la question, mais je pense qu'elle a grandi en se forgeant son identité de plein d'inspirations différentes, mais pas avec, tu vois, j'ai envie d'être Beyoncé ou d'être Rihanna, tu vois.
Ouais, tout à fait. On parlait de rôle modèle, on va écouter tout de suite une artiste qui, elle aussi, peut faire figure de rôle modèle, qui a fait de la fragilité une force et de la douleur une matière poétique. Luz and the Yakuza, toujours entre mélancolie et puissance, sortait un projet de 3 titres en avril dernier, intitulé No Big Deal. Coup de cœur pour le titre, Casse-toi.
J'ai le cœur qui flambe quand je te vois. J'ai toute ma mémoire qui reste de toi. J'aurais pas écouté quand c'est ta voix. J'ai pas la force d'aller contre toi.
No Yakuza avec le morceau Casse-toi, présent sur le projet No Big Deal.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Et ce soir, nous sommes avec Sally, créatrice de contenu, qui fait de l'edutainment. Voilà, c'est ça.
Ouais,
si on doit trouver une étiquette, on dira ça, on s'est mis d'accord là-dessus. Qui vient d'ailleurs de sortir, j'encourage tout le monde à aller regarder une interview de Kid Cudi. On en reparlera un peu après de cette facette interview chez toi. Mais nous le disions, tu as une formation de juriste.
Exact.
Et j'aimerais savoir d'où t'es venue cette passion-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers ça? Est-ce que peut-être ce sont des séries? Et je pense notamment à quelques séries, notamment une qui a été très connue, Suits.
Lui, c'est Harvey, le meilleur avocat de New York.
Je suis une exception.
Lui, c'est Mike, le futur Harvey, à quelques détails près.
Tu viens au cabinet? Je t'avais pas dit de changer de costume.
J'ai dépensé $500.
Pour combien de costumes? Voilà, plus grand.
Plus grand comment?
Suits, avocat sur mesure.
Suits, avocat sur mesure. Est-ce que c'est une... Alors, pour le coup, c'est intéressant parce que la fonction, la profession d'avocat, de magistrat, elle a été beaucoup représentée au cinéma, dans les séries, c'est quelque chose qui est assez cinématographique. Est-ce que cette série ou d'autres, il y a d'autres exemples qu'on peut citer, ça t'a influencé, ça t'a fait rêver, peut-être quand t'étais plus petite?
Totalement. Ouais. Mais moi, j'adorais de toute manière, même au-delà de Suits, les bonnes vieilles séries de revues criminelles, New York, Enquête judiciaire et compagnie. Donc oui, mais Suits, c'était une des séries que je préférais. Une autre que j'adore, c'est Better Call Saul.
Évidemment.
Voilà, dont je trouve qu'on ne parle pas assez à chaque fois je le dis.
Mettons-nous un petit extrait. Mettons-nous un extrait de Better Call Saul.
Alors, ça ressemble à ça, la crise de la quarantaine ?
J'ai fait ce qui était juste pendant des années. Regarde un peu où ça m'a mené, nulle part.
C'est peut-être un travail pour vous.
Où et quand ? Est-ce que ça va se faire ?
Jimmy a toujours su comment s'y prendre.
Vous me remercierez plus tard. C'est d'accord, on se lance.
Better Call Saul donc est un spin-off de la série Breaking Bad,
yes.
Et qui pour certains, certaines est même meilleur que Breaking Bad. Qu'est-ce que t'aimes dans cette série, toi ?
Je sais pas si c'est meilleur que Breaking Bad, parce
c'est
que
compliqué.
Breaking Bad pour moi c'est numéro 1. C'est, je pense, la série qui m'a réconciliée avec le concept de série, parce que habituellement j'aime pas les séries, je suis très film. Je suis vraiment très cinéphile et j'aime le fait que ça se termine, tu vois. Que l'histoire en 2 heures tu la développes et c'est fini, donc les séries j'étais pas
fan. Oui, les saisons avec des... saison interminable, etc.
J'ai horreur de ça, donc Breaking Bad m'a réconcilié avec la série, et ensuite Game of Thrones, mais c'est un autre débat. En tout cas...
Très peu d'avocats dans Game of Thrones.
Très très peu.
Quelques dragons, mais très peu d'avocats.
Pour le coup, Better Call Saul, ce que j'aime dans cette série, c'est que ça décrit vraiment très bien le quotidien d'un avocat. Et ben, je vais te dire oui. Je sais que la plupart des séries qu'on aime, typiquement Suits, c'est l'avocat new-yorkais qui vit dans son penthouse à 100 000 dollars le mois, mais la réalité des avocats, elle est différente, elle est beaucoup plus précaire, surtout dans le droit pénal, il faut le savoir. C'est un des domaines du droit où on galère le plus. Et c'est vrai que dans mes études, puis après dans mes stages, et puis après dans mon expérience, c'était effectivement plutôt compliqué. Et beaucoup de misère sociale. Tu sais, quand tu fais du droit pénal, tu t'intéresses à des affaires très graves.
Très dures.
Dures.
Ouais.
Qui touche parfois à des enfants, c'est compliqué. Donc, c'est un métier très dur. Je pense qu'on ne remercie pas assez les avocats pénalistes pour le travail qu'ils font, parce que je peux t'assurer que c'est très compliqué. Les commis d'office, c'est souvent en droit pénal, tu vois. Donc, un métier compliqué, mais qui est tellement beau. Et je pense que Better Call Saul réussit à capter ce petit côté entre la précarité, puis la réussite, puis les doutes, puis la sensation de faire de ton métier, qui à la base, encore une fois, le but c'est de chercher de la justice et de défendre ton client, devient aussi un business et tu peux t'y perdre. Alors tu vois, c'est toujours cette justice même interne entre le bien et le mal. Est-ce que tu acceptes ce client ? Est-ce que tu acceptes de défendre son dossier ? Est-ce que non ? Est-ce que tu vas jusqu'au bout ? Enfin, je trouve que la série, elle est vraiment très très bien et puis très drôle.
On parle de ce métier-là avec beaucoup de passion et d'intérêt. Est-ce que tu as, non pas le regret, mais est-ce que tu as une pointe peut-être de nostalgie ou d'amertume quand tu dis « j'aurais pu faire ce métier-là, finalement je ne l'ai pas fait ». Est-ce que tu dis peut-être que tu peux encore le faire plus tard ?
Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je me dis « je veux repartir dans ma vie
c'est
d'avant ».
C'est vrai ?
Pas un jour. Bah voilà, aujourd'hui je l'ai pensé. Voilà. Aujourd'hui je viens de le penser et demain je le penserai encore. C'est constant parce que c'était une passion. C'était vraiment ma passion. C'était une passion. Donc, franchement, quand tu mets de côté une passion pour une opportunité, parce que pour le coup, les réseaux, c'était une opportunité, je m'y attendais pas.
Ça a pris,
et puis je me suis dit, bon, bah quand même, c'est pas tous les jours, hein. Allez, on se fait plaisir et on regarde jusqu'où ça peut nous emmener.
Et mais c'est moins précaire que
qu'être avocat. Pour le coup, c'est moins précaire, mais tu sais quoi, je peux pas me plaindre, parce que quand j'étais à Londres, j'étais en VIE. Ceux qui ont fait un VIE,
Donc, VIE, c'est volontariat international.
Exactement. Europe, je crois, c'est en Europe, quelque chose comme ça. Et en tout cas, ou économique.
Économique,
je crois que c'est plutôt économique. Mais en tout cas, c'était en Europe, pour ma part, comme c'était à Londres. T'es très bien payé, tu payes pas d'impôts sur ça. J'étais franchement très bien,
je suis pas
à plaindre.
Je suis pas
à plaindre dessus. Mais après, les réseaux, ça, c'est très cool aussi. Hein.
Mais t'as effectivement, il y a quand même ce côté où t'as dit au revoir, peut-être temporairement.
À une vocation.
À une vocation, une passion.
Et ça me fait de la peine. Mais pour mes 30 ans, je me suis dit, je veux passer mon barreau. Pour mes 30 ou mes 35 ans, je sais pas.
Ah oui,
je repousse l'échéance.
Très bien. Bon, en tout cas, on est avec Sally dans À la régulière. Alors, je l'ai dit, tu fais beaucoup de choses, notamment depuis quelque chose comme 2 ans. Tu interviews aussi des artistes, des personnalités. Et attention, le track record, comme on dit, est assez impressionnant. J'ai parlé de Kid Cudi tout récemment, Denzel Washington. Bon, j'encourage tout le monde à aller sur la chaîne YouTube de Sally. Les dernières en tête, c'est Kid Cudi, qui est une très bonne interview.
Merci
vraiment,
beaucoup.
Je te le dis sincèrement. Pour faire beaucoup d'interviews, c'est toujours agréable de voir quelqu'un qui arrive aussi à capter un moment. On sent qu'il y a de l'émotion, on sent qu'il y a de la sincérité. Ouais. Donc vraiment, j'ai été assez même ému et touché par cette interview. Comment toi, tu t'improvises, si tant est que ce soit le cas, mais intervieweuse? Parce qu'encore une fois, on parle d'opportunité. Et en plus, on est dans un moment, et on pourra en parler aussi, où il y a parfois beaucoup de gens qui vont critiquer le fait que des créateurs de contenu prennent, je mets des guillemets quand je parle, la place de vrais journalistes, je mets également des guillemets. Et toi, t'as aussi été au centre de ces critiques à un moment, comme d'autres, hein, comme moi, comme plein de gens. Mais comment tu vis ça? À la fois le côté, je prends ce rôle-là, et en même temps, après, je subis aussi parfois les critiques.
Alors, pour répondre à cette question que je trouve passionnante, comment est-ce que je me suis lancée là-dedans? Si je me souviens bien, c'était avec Omar Sy à l'époque, donc excusez du peu, tu vois, tu rentres quand même avec une interview d'un acteur, d'un poids lourd en fait, dans l'acting français. C'était Omar Sy quand il avait sorti...
Le plus grand acteur, enfin le plus connu
en tout cas à l'heure actuelle, je pense. Clairement, et même à l'international.
Oui, bien sûr.
Donc... c'était pour la promotion de Tirailleurs, je me souviens, à l'époque. Okay. Et moi, je voulais à tout prix faire une interview avec lui, et ils acceptent. Donc, on fait cette interview avec Omar Sy. L'interview cartonne, mais parce que bon, il y a aussi Omar Sy. Et puis, c'était un duo inattendu. Et à partir de là, moi, je me rends compte que j'aime beaucoup faire ça. De base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler, j'aime échanger mes idées, j'aime recevoir aussi les idées des autres et les énergies aussi. Donc... l'exercice, je le reproduis avec de plus en plus de personnes. Puis après, j'ouvre mon podcast avec Spotify. Donc là, forcément, ça avait un rythme encore plus professionnel, entre guillemets, parce que tu sais bien ce que c'est. C'était un rythme. Ouais. Donc c'est là où j'ai commencé à interviewer Sofiane Zarmani, que tu as eu dernièrement. Fianso, que j'adore, vraiment.
C'est aparté, mais c'est une des personnes les plus faciles à interviewer.
Je l'adore.
Tu lui dis ça va, il te fait une réponse de 5 minutes.
Pour un intervieweur,
c'est un rêve quand on pose des questions à quelqu'un.
Il est génial, Fianso, génial. Trop inspirant d'ailleurs, bref. Je l'ai eu, et puis d'autres personnalités. Et en fait, à un certain moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à me proposer des personnalités internationales. Et il se trouve que je parle parfaitement anglais, sans vouloir jeter des fleurs. Je remercie encore une fois mes professeurs d'anglais. Mais je parle très bien anglais. Donc, ce qui fait que j'ai réussi à avoir de vraies connexions avec les personnalités que j'interviewais, dont par exemple Ariana Grande et Cynthia Erivo pour la promotion de Wicked, où il y a ce moment où je pose cette question.
Oui.
Sur les critiques que Ariana Grande recevait au quotidien sur son poids. Et il y a ce moment d'émotion, cette séquence émotion qui est devenue virale internationalement pour le coup, parce que c'est Ariana Grande, parce que c'est en anglais aussi. Et de là, je me suis dit, ok, là j'ai cette capacité à mettre les gens à l'aise et à pouvoir poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de leur poser, à aller chercher peut-être plus dans l'émotion. Et c'est quelque chose que j'aime faire, que j'aime beaucoup faire, et donc depuis je le fais. On l'a fait effectivement avec Denzel Washington, qui a été un point un peu tournant, parce que une fois que t'as fait Denzel Washington, je sais pas comment l'expliquer, il y a un côté où ça y est, tu vois, même les invités, je pense qu'il y a un petit côté, ils se disent, elle a quand même fait Denzel.
Il tape ton nom, voilà, il y a Denzel Washington.
Tu vois, voilà, ils se disent, c'est pas trop nul. Mais c'est effectivement aussi cette interview qui a catalysé toutes les critiques sur le fait de pourquoi ça lit.
Elle n'est pas légitime.
Elle n'est pas légitime.
Comment tu réponds à ça, toi?
Écoute, il y a deux réponses. Il y a la réponse à l'américaine, un peu arrogante, qui va te dire, écoute, c'est les équipes de Denzel Washington qui ont validé ma présence.
C'est pas arrogant, c'est la réalité en l'occurrence.
C'est la réalité, mais ça peut être perçu comme arrogant, ce que je peux comprendre. Donc, encore une fois, c'est la réponse à l'américaine, de dire, écoutez, s'ils ont validé mon profil, j'allais pas dire non, tu vois. La deuxième réponse, c'est qu'il y avait des journalistes professionnels avec moi aujourd'hui, ce jour-là. Je ne suis pas arrivée seule, je n'étais pas le seul créneau de ce moment de presse, tu vois. Donc, à partir du moment où il y avait, je crois, ces 5-6 journalistes professionnels, avec des médias, du coup, mainstream et professionnels, je vois pas où est le problème, moi, sincèrement, qu'on crée une connexion avec de la presse digitale, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je suis. Quand je poste l'interview, quand je poste l'extrait même, c'est même pas l'interview en entier, l'extrait sur Instagram et qui fait 7 millions de vues, je fais de la presse, là. Tu vois, je suis en fait un média à moi toute seule, et avec cette vidéo-là, il y a des retombées qui sont positives pour le film. Et en fait, à un certain moment donné, les distribs, ils sont là pour faire de la pub. Tu vois, moi-même, si un jour, je sais pas, je fais de la musique et je sors un album, je vais aller faire la tournée des médias pour me faire ma pub de mon projet. Donc, à un certain moment donné, s'il y a un créateur de contenu qui, je sais, peut m'apporter des millions de vues, est-ce que je vais dire non ? Donc, il y a un côté... Moi, je comprends hein, que les journalistes puissent se sentir un petit peu compressés. Parce que s'ils doivent déjà se bagarrer entre collègues, parce que j'ai conscience des réalités du milieu, c'est un milieu très concurrentiel. Donc, ils doivent déjà se bagarrer entre collègues. Et tu rajoutes à ça, maintenant, des créateurs de contenu qui font des interviews. Et pas que des interviews. Les vidéoconcepts. Les vidéoconcepts qui, aujourd'hui, permettent de faire des millions de vues pour la promotion d'un film. Et donc, maintenant, par exemple, au lieu d'aller chez un média tradi, ils vont faire une vidéo YouTube avec des créateurs de contenu. Hein. Par exemple, qui est l'imposteur, tu sais, le fameux qui est l'imposteur de Squeezie. Oui. C'est un format promo aussi, tu
Absolument.
Vois.
Absolument. Bah, d'ailleurs, les gens qui viennent sont en promo.
Sont en promo. Donc, aujourd'hui, on est face à une réalité. Les réseaux sociaux font énormément de bruit, font énormément de vues. Tout le monde est sur les réseaux, en fait. Donc, c'est devenu un média à part entière. Et donc, c'est normal que désormais les promotions se passent aussi sur les réseaux.
J'ai une question. Tu as dit que tu étais un média à part entière. Je suis d'accord avec ça. Il y a aussi quelque chose, c'est que toi, tu ne fais pas uniquement du divertissement. Tu es aussi quelqu'un qui est engagé, qui s'exprime sur plusieurs sujets. Et comment tu gères cette image-là ? Parce que ça peut être compliqué quand on est engagé. Les gens vont parfois directement chercher aussi la petite bête. Tu dois être irréprochable.
Oui.
Si tu es une créatrice de contenu engagée, tu dois être irréprochable. Donc, comment tu gères cette pression-là, qui peut être compliquée ? C'est-à-dire que dès qu'il y a une polémique, on va t'attendre, on va te demander ton avis, ton opinion. Si tu t'es exprimé sur un sujet, tu dois aussi t'exprimer sur un autre sujet, une autre polémique. Ouais. Comment tu gères cette pression-là, qui est une autre pression que celle de faire des vues sur la prochaine vidéo de divertissement ? Là, c'est quelque chose qui touche aussi à ta personne et à tes valeurs et à comment ton audience s'identifie à ça.
Mais totalement. Mais en fait, c'est ça que je dis à chaque fois. Parce que j'ai parlé parfois à des gens qui me disaient « Mais c'est trop cool d'être engagé maintenant, c'est une manière de faire des vues sur les réseaux, tu vois, ou de parler aux marques et de leur montrer qu'on a un propos, on n'est pas juste des créateurs de contenu, parce que c'est encore l'image très télé-réalité ou très superficielle, tu vois. » Et à chaque fois, je le dis, je pense que c'est la chose la plus compliquée, en fait, sur les réseaux, c'est d'avoir le courage d'avoir un propos. Parce qu'on vit dans un monde où, à partir du moment où tu as un propos, tu vas forcément scinder. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi, il y a des gens qui vont être d'accord avec toi. Les gens qui ne vont pas être d'accord avec toi, ils vont prendre un malin plaisir à te faire comprendre. Oui. Ils vont te détester, vraiment. Donc le simple fait d'être engagé, ça veut dire que déjà tu t'aliènes à peu près 50% du reste de la population qui n'est pas d'accord avec toi, tu vois. Donc au quotidien, c'est pas facile. C'est pas facile aussi parce que parfois je prends des prises de position que même ma communauté qui est d'accord avec moi, n'est pas d'accord avec moi. Donc en fait, même dans tes 50% qui te soutiennent, tu vas parfois avoir de nouveau 5 autres % qui ne sont plus d'accord avec toi, qui te détestent, qui vont considérer que tu les as déçus, etc. Je pense que la chose, moi, qui me permet de continuer à faire ce que je fais sans crouler sous la pression de « Ah, mais t'as parlé de ça, mais t'as pas parlé de ci, ah, mais t'as dit ça, mais là, t'as fait ci », c'est de me dire, à la fin de la journée, je suis juste la fille de mes parents. Je suis sur les réseaux, j'essaye d'utiliser ma voix du mieux que je peux, mais je suis juste la fille de mes parents, je suis juste une femme aussi dans la vie de tous les jours, qui essaye de se découvrir, qui grandit, qui a des passions différentes, qui a sa vie de femme, qui a sa vie de sœur, qui a sa vie d'amie, et qui a sa vie de fille de ses parents. J'aime bien le dire parce que je trouve que les gens l'oublient, parfois ils te voient juste comme un personnage qui doit répondre à leurs envies, à leurs pensées, à leur manière de vouloir faire les choses, ils veulent que tu fasses exactement ce qu'eux auraient aimé que tu fasses s'ils étaient à ta place, mais ils sont pas à ta place, tu vois, ils ont pas conscience de l'état dans lequel t'étais la veille, pourquoi t'as pas pu parler de ce sujet, mais parce qu'en fait t'étais en dépression tellement sévère que tu pouvais pas allumer la caméra, ça les gens le voient pas, et t'as même pas forcément besoin de le dire pour te justifier. Mais juste, c'est une réalité. Tu vois, il y a des fois où je suis pas en capacité de faire une vidéo. Parce que j'ai des problèmes dans ma vie, ou parce que j'en ai pas, justement, et que pour une fois que j'en ai pas, j'ai juste envie de kiffer.
Bien sûr.
Tu vois ? Donc, il faut pas se mettre la pression aussi du monde. Tu vois, il y a eu un moment où je voulais juste sauver le monde. Je me disais, non, mais il faut que je fasse des vidéos sur tout, parce que regarde, quand j'en parle, ça fait pas bouger les choses, mais en tout cas, les gens apprennent des choses et le voient. Et puis, moi, je viens, je vulgarise, et j'apporte ma petite pierre à l'édifice comme je le peux, encore une fois, car je ne suis que la fille de mes parents.
Sally est la fille de ses parents et Sally est libre, comme quelqu'un que tu viens interviewer Kid Cudi. Donc on va aller maintenant en direction Paris, mais vu depuis les yeux de la légende de Cleveland, Kid Cudi qui nous offre donc une balade planante qu'on va écouter. Le morceau s'appelle Picnic in Paris, et c'est extrait donc de son tout dernier album pour lequel tu l'as interviewé, qui s'appelle Free. Free, libre, comme toi.
When you're laying on my chest, we're taking off, no matter what the give and takes, no giving up. Cute code names, forever days, you keep me on, keeping on. I was like a dead man walking, like a summer thing we blossom. Touch me in a spiral, heaven when you smile, we get miles, yeah, yeah, yeah. Canceling gravity, it feels like for my whole life. You were waiting for me. You take the good, you take the bad, and mix it up. When you're laying on my chest, we're taking off, no matter what the give and takes, no giving up. Cute code names, forever days, you keep me on, keeping on. I was like a dead man walking. Summer thing we blossom, touch me in a spiral. Heaven when you smile, we get miles, yeah, yeah, yeah. Girls like you don't come round often, like the burden of a babe I'm sopping. Touch me in a spiral, heaven when you smile, we get miles, yeah, yeah, yeah. You love me, you love me, you love me so. So I used to be low. I was like a dead man walking, like a summer thing we blossom. Touch me in a spiral, heaven when you smile, we get miles, yeah, yeah, yeah. Girls like you don't come round often, like the burden of a babe I'm sopping. Touch me in a spiral, heaven when you smile.
Kid Cudi, Picnic in Paris, présent sur son tout dernier album, Free.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Nous sommes avec Sally ce soir. Et Sally qui vient interviewer Kid Cudi, je l'ai dit. Est-ce que c'est ta meilleure interview pour toi?
Pour moi, oui. Okay. C'était ma meilleure interview. Je l'ai trouvée tellement touchante. Je pense qu'il a délivré des leçons de vie qui peuvent parler à tout le monde. Donc ouais, c'était pour moi ma meilleure interview.
Bon, j'aimerais qu'on fasse un rapide tour de ce qui se passe dans la pop, notamment deux infos qui vont sûrement t'intéresser. Et notre premier arrêt, ce sera avec le youtubeur Michou, le youtubeur star qui s'est lancé un pari fou, faire de sa nouvelle série Terminal un vrai événement cinéma. L'idée est simple, 16 créateurs de contenu organisés en 8 duos sont mystérieusement invités dans un aéroport abandonné pour participer à la plus grande chasse à l'homme jamais filmée.
Chargeur, chargeuse, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur votre terrain de jeu. La fatigue, la soif, la faim seront aussi assassins que mes traqueurs.
C'est lui pas?
Oh, c'est peut-être les piles, non? Oh putain!
Oh, y'a un bagarre. Oh. Octobre 1984. Ah, c'est pas grave, non?
Alors, c'est un vrai tournant, on n'est plus seulement dans la vidéo YouTube de chambre, mais dans une production calibrée pour le grand écran, avec d'ailleurs une séance qui sera diffusée ce vendredi. Casting XXL et moyens colossaux, je pose la question, est-ce que YouTube est le nouvel Hollywood ? Salut. et plus sérieusement, qu'est-ce que tu penses de ces super productions ? Est-ce que toi, en tant que YouTubeuse, ça te tente, ça t'intéresse, t'as envie de faire ça ? Pas du tout. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup de créateurs de contenu qui en sont revenus, qui ont une forme de pression trop grande, de burn-out après ces super productions. Comment tu vois un peu cette tendance-là dans le YouTube game ?
Alors, cette question, elle est marrante parce que moi-même, je réalise des docus. Là, en plus, prochainement, je vais devoir sortir mon documentaire Motherland, qui est donc un documentaire de voyage que je réalise.
Sur l'Afrique, hein, c'est ça.
Sur l'Afrique, et là, on a choisi le Bénin. Ouais. Donc, sur toute la culture, notamment vaudou. Et c'est pas forcément une grosse production hollywoodienne, mais c'est de la prod quand même, c'est un vrai docu. Donc, ce que je pense, moi, sur ce sujet-là, c'est que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, si Michou a envie de se faire une grosse production avec, tu m'as dit, 16 créateurs de contenu,
oui.
Voilà, à la Celebrity Hunted, un peu, du coup.
Exactement, voilà. C'est un peu ça, ouais.
Bah, ouais, ça m'a fait penser à ça, du coup, là, en écoutant. Bah, pourquoi pas ? Et s'il a envie d'aller le diffuser dans une salle de cinéma pour faire kiffer l'expérience sur un grand écran avec sa communauté, pourquoi pas ? Tu vois, c'est quelque chose qui s'est développé maintenant, les avant-premières. Moi, je me souviens, la première, je l'avais fait pour mon Motherland Cameroun. J'avais fait une avant-première, donc je pourrais pas venir là maintenant dire à Michou, mais pourquoi tu fais une avant-première pour ton projet ? Alors, j'ai vu, c'est vrai, j'en ai entendu maintenant parler, quand tu me le dis, des critiques en disant, oui, mais là, c'est pas un docu, justement, c'est une grosse vidéo YouTube qu'on met au cinéma. Alors, je veux bien l'entendre, mais ça reste une belle production audiovisuelle. Donc, les salles de ciné, si elles l'acceptent en disant « bah oui, on le diffuse », quel est le souci ?
Mais moi, je vois pas forcément de souci, mais est-ce que tout ça, même globalement, le fait qu'on parle de contenu dès qu'on parle de quelque chose, on parle d'une vidéo YouTube, d'une série, d'un film, est-ce que toi, en plus, qui es une grande amatrice de cinéma, est-ce que ça met pas tout au même niveau ? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement, aujourd'hui, en mettant à la fois un film qui sort sur Amazon Prime, une vidéo YouTube et un film réalisé par un ou une grande réalisatrice, est-ce que c'est pas le risque de mettre tout au même niveau ?
Bah, sincèrement, j'espère quand même que ceux qui vont regarder la vidéo de Michou ont quand même conscience que ce n'est pas un film, tu vois, et que c'est une belle production de Michou qui se fait plaisir avec ses amis, tu vois. Je pense pas que Michou lui-même est parti dire à ses abonnés « Je réalise un film, c'est un long métrage, coucou Quentin Tarantino », je ne pense pas, tu vois. Donc après, tout est une question, encore une fois, de curseur et de perspective. Si Michou, demain, décide de faire une vidéo en disant « Ouais, les gars, j'ai sorti mon nouveau film », et qu'effectivement, c'est ce concept-là, je peux comprendre, effectivement, que le milieu du cinéma et les cinéphiles fassent une petite levée de bouclier, ou que s'il est nominé au César comme réalisateur, on se pose quelques questions. Mais là, franchement, c'est un créateur de contenu qui se fait un kiff pour sa commu, qui veut juste faire, en fait, une espèce de grosse session de visionnage, donc il le fait dans une salle de ciné. Je vois vraiment pas le problème. Et en vrai, pour te dire la vérité, moi, ce qui me fait de la peine, c'est plus pour eux, parce que finalement, à se mettre des gros objectifs comme ça tout le temps, c'est même eux qui se retrouvent dans cette situation un petit peu compliquée où tu veux faire plaisir à tes abonnés, mais du coup, t'es obligé d'en faire toujours plus, tu vois. Et puis, en plus de ça, tu commences à te friter à un milieu qui est l'énorme milieu du cinéma et que je respecte énormément, et qui peut effectivement peut-être voir du mauvais œil ce genre d'initiative, mais sincèrement, honnêtement, je pense même pas. Parce que c'est quoi, ça va durer 24 heures son film, voilà, enfin son film, tu vois, sa vidéo, pour moi, c'est vraiment un peu un faux débat, quoi.
On continue avec Drake, qui débarque à Paris, qui revient à Paris. L'Accor Arena l'accueille pour deux concerts, dimanche et lundi, dans le cadre de sa tournée Some Special Shows For You. Mon anglais est bien moins bien que le tien,
je le dis.
Au programme, des classiques, mais aussi des titres de son dernier projet avec Party Next Door, qui, cerise sur le gâteau, sera aussi de la partie. Who do you fuck in the city when I'm not there? I owe your time. Let's plan something out when I come back from Europe. Swear I'm withholding my urges till you get this one-on-one shit like your name Katie Kirk. I gotta get you those snow tires for your Mercedes. I'm glad you reminded me, baby. All of these things let my mind... Extrait du morceau Recognize, donc est un feat entre Drake et Party Next Door. Deux questions pour toi. Est-ce que tu seras à un des deux concerts? Et qu'est-ce que tu penses de Drake?
Alors,
est-ce que tu écoutes toujours autant Drake, même après l'année 2024 compliquée qu'il a subie lors de son clash avec Kendrick Lamar ?
Ne me parle pas de Not Like Us. Alors écoute, je serai au concert de Drake dimanche. Et franchement, écoute, patate chaude, mais je l'attrape. Je suis toujours...
Je suis avec toi là-dessus, t'inquiète
merci.
Pas.
Merci. Moi, je suis toujours pro-Drake, alors je suis désolée, j'aime beaucoup Kendrick Lamar. Et peut-être, tu sais que là, ce que je suis en train de te dire, ça va me coûter une interview, tu sais. Peut-être que son équipe va me blacklister. Mais j'ai grandi avec Drake. Drake m'a suivi dans des moments, toute mon adolescence, mon adolescence. Je suis team Drake.
Plutôt une interview de Drake ou de Kendrick Lamar?
Ah là, tu me poses une vraie colle.
Ah oui.
Bah en fait, pour la Salima, voilà, tu sais quoi, je vais me dissocier entre Salima,
ouais, tu vas tricher, tu vas
mon
tricher.
Vrai prénom. Ouais, je vais tricher.
Tu vas tricher.
Salima a choisi Drake, Sally a choisi Kendrick. En fait, le problème, c'est que Kendrick, j'adore son personnage, j'adore ses paroles, j'adore les messages qu'il véhicule, mais Drake, c'est... musicalement, tout ce qu'il a... Tu sais, par exemple, son album Honestly...
Nevermind. On en parlait tout à l'heure, oui.
Mais exceptionnel.
Je l'adore.
En fait, la manière dont il a réussi à s'implanter dans absolument toutes le type de musique possible, à nous faire de l'électro, de la pop, du R&B, du tout, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et je pense que sa longévité, c'est aussi ça. Alors après, je sais que les gens, les puristes vont m'attraper, oui, mais non, mais c'est pas lui qui écrit, mais non, mais il a volé tel concept de titre, de ça. Moi, at the end of the day... J'ai grandi avec Take Care, j'ai grandi avec Views, j'ai grandi avec Nothing Was The Same, j'ai grandi avec tous ces classiques-là, et j'ai hâte de le voir dimanche. Et je continue à l'écouter, même si Not Like Us, il faut le reconnaître, c'était un banger.
Honestly Nevermind, en tout cas, meilleur album, avec de la musique de Zara derrière. Mais j'adore cet
incroyable.
Album. Nous sommes avec Sally aujourd'hui. Sally, aujourd'hui, nos feeds nous connaissent mieux que nos psys. YouTube sait quand on est triste, TikTok sait quand on veut changer de vie, et Instagram nous pousse des trucs qu'on a pensé mais jamais dit. Alors dans cette séquence qu'on va appeler l'algo de Sally, par exemple, on va explorer ton cerveau numérique. Ce que tu regardes, ce que tu caches, ce que tu likes en douce.
Allez-y.
Le dernier truc chelou que YouTube t'a recommandé et sur lequel t'as cliqué sans réfléchir. Est-ce que ton algorithme parfois te joue des tours?
Franchement, mon algorithme est très discipliné.
Ce qui est flippant, d'ailleurs, ils sont très disciplinés.
Très discipliné, je l'ai bien éduqué. Donc, la dernière fois que j'ai vu un truc chelou, franchement, ça remonte à très 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 longtemps. Et je pense que c'était sur un live, c'était, tu vois, sur TikTok, quand t'es sur ton feed, tu peux tomber sur des lives.
Mm-hmm.
Et oui. J'avais vu un live hyper bizarre. Tu sais, c'est les gens, quand tu leur donnes de l'argent, ils font des mots bizarres, oui. ils agissent bizarrement.
Je vois, oui.
Très gênant. Et j'ai quitté, bien évidemment, je ne suis pas restée.
Comment tu gères la différence entre les plateformes? Est-ce que tu as un contenu sur YouTube, Instagram c'est différent, TikTok c'est autre chose, X c'est autre chose? Est-ce que tu arrives à avoir un équilibre entre toutes ces plateformes-là? Est-ce que tu donnes un contenu qui est différent à chaque fois?
YouTube, c'est les formats longs. Donc c'est les formats où je veux pousser ma communauté justement à rester un maximum de temps et à vraiment s'intéresser au sujet. Instagram, ça va être lifestyle et sujet actualité. Tu vois, donc les vidéos de 3-4 minutes pour vulgariser l'actualité. TikTok, c'est tout et n'importe quoi. Voilà.
Ouais, ok. Sur Instagram aussi, tu gères bien ton image.
Ouais.
Je me souviens notamment d'un shooting où tu ressemblais un peu à César. Tu avais un peu reproduit le look de César. Comment tu gères aussi cette image-là? C'est-à-dire qu'il y a, ok, le contenu, ce que tu racontes, mais il y a aussi ce que toi, tu dégages. Il y a aussi des gens qui vont t'aimer ou ne pas t'aimer. Parfois, mm-hmm. Les gens sont parfois extrêmement méchants sur Internet pour ce que tu es, pour les habits que tu portes. Comment tu gères cet aspect-là qui peut aussi être dur à vivre, parfois, aussi bien dans le bon, dans le négatif que dans le positif, d'ailleurs.
Oui, bah, le positif, c'est que regarde où ça me mène, c'est que je suis là avec toi aujourd'hui, on est en train de discuter en toute tranquillité, et c'est ce genre de moments qui sont absolument géniaux. Bien évidemment qu'il y a des commentaires négatifs, mais comment est-ce que je gère mon image? Franchement, je vais pas te mentir. Il y a un moment dans ta vie où tu décides juste d'être toi-même, tu vois. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont me trouver, je sais pas, il y a des gens qui vont me trouver trop grosse, qui vont me trouver trop mince, qui vont me trouver pas assez bien, pas assez jolie, pas assez ci, pas assez ça. Et en fait, à un certain moment donné, tu dis juste, et puis merde, quoi, je veux juste être moi-même. Et
quand t'as réussi à dire tout ça, justement, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, parce que quand t'es jeune, c'est compliqué, je pense, on est aussi soumis au regard des autres, à l'exposition.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un moment où t'as réussi à t'affranchir de ça?
Le moment où tu t'affranchis du regard des autres, c'est le jour où tu te regardes dans le miroir et tu te dis, franchement,
je suis la fille de mes parents.
Je suis la fille de mes parents. Non, mais c'est ça. Il y a un jour où tu te regardes dans le miroir et tu te dis, là, j'ai pas le choix. C'est soit je décide d'être moi-même, soit je passe ma vie à faire semblant d'être quelqu'un d'autre et sur mon lit de mort à être pleine de regrets. Et donc, à un certain moment donné, je sais très bien que je vais pas plaire à tout le monde. Je sais très bien qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Et puis, c'est la vie, quoi. Et puis, moi, j'incite vraiment les gens à faire ce qu'ils veulent faire. À chaque fois, c'est ce que je dis aux gens. Soyez juste vous-même et puis c'est bon, ça passe.
Si on regarde ton feed, est-ce qu'on se dit que tu vas bien ou que tu vas mal?
Bah Instagram, c'est du mytho, donc quand tu regardes mon feed, t'as l'impression que tout va bien. Ça n'existe pas, les Instagram, où t'as l'impression que tout va mal pour la personne.
Ouais.
Donc bien sûr que t'as l'impression que tout va bien quand tu vas sur mon feed.
Et est-ce que t'as déjà pensé à montrer aux gens les moments où tu vas plus mal, justement? Ça fait pas partie, t'as pas envie de communiquer ça, c'est quelque chose qui est privé. Parce que des fois, tu dis, je le remonte pour que les gens sachent ce qui se passe aussi dans mon cerveau, dans ma vie privée.
Non, je montre parfois mes moments de vulnérabilité, parce que je pense que c'est ce qui fait qu'on est humain et qu'on est comme tout le monde aussi. Et je pense que c'est important de ne pas se donner ce rôle de meuf qui est toujours au-dessus de tout, qui surmonte toujours tout. Je pense qu'il y a de la beauté et de la catharsis dans le fait justement d'être au plus bas et de réussir à remonter. Donc il faut le dire aux gens, il faut le communiquer. Après, je ne le fais pas tout le temps parce que je n'ai pas non plus envie de plomber l'ambiance, tu vois.
Ouais.
Mais quand ça ne va vraiment pas, je n'hésite pas à le dire. Ça ne me dérange pas.
Tu disais, c'est important de montrer qu'on n'est pas toujours cette femme qui est au-dessus de tout. Mm-hmm. Tout à l'heure, on citait Beyoncé dans les modèles en disant qu'on n'était pas obligé évidemment d'être Beyoncé. Est-ce que Beyoncé, c'est un modèle où justement elle semble trop parfaite, trop forte peut-être pour le commun des mortels? Moi, j'ai un peu ce sentiment-là, évidemment, je m'identifie.
Oh.
Mais il y a ce truc-là où on a l'impression qu'elle est trop forte, géniale, qu'il n'y a pas de faille, qu'il n'y a pas de fêlure, alors qu'il y en a fatalement.
Oui.
Est-ce que c'est quand même quelqu'un qui a pu t'inspirer ou pas plus que ça? Parce qu'elle est trop parfaite. Ou qu'elle semble trop parfaite.
Ah, bah c'est intéressant. Ça, c'est des débats qu'on a tout le temps avec mes équipes.
Ouais.
Sur le côté, c'est important de montrer des fissures dans l'armure, tu vois. Moi, je sais pas si c'est nécessaire. Beyoncé, peut-être qu'effectivement, toi, elle va pas t'inspirer parce que tu trouves qu'elle est trop parfaite. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de ce genre de modèle, qui sont absolument parfaits pour se dire, regarde, si je bosse, je peux arriver jusque-là. Donc moi, ça me dérange pas du moment où tout le monde n'est pas comme elle, parce qu'effectivement, à un certain moment donné, on est des êtres humains. Mais moi, ça me dérange pas. J'adore ce qu'elle fait. Je la trouve tellement disciplinée, tellement douée dans ce qu'elle fait qu'au contraire, quand je la regarde, je me dis, ah ouais, tu vois, quand tu bosses, tu peux y arriver. Tu peux en tout cas atteindre ce genre de stade. Et ça, c'est un vrai kiff personnel. Donc non.
Est-ce qu'il y a un compte que tu stalks, que tu stalks plutôt régulièrement, mais que tu n'as jamais osé suivre?
Non. Si j'aime, je suis.
Ok.
Si j'aime, je suis. Je suis pas comme ça. Si
comme Damso, qui aime like, follow.
Ouais, mais lui, il suit personne. Donc Damso, d'ailleurs, si tu m'écoutes, arrête donc.
Que t'as interviewé d'ailleurs.
Ouais. Qui est génial. Il est top, ce mec.
Est-ce qu'il y a des personnalités que tu rêves d'interviewer? Quand on a fait Denzel Washington, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des gens voilà, à qui t'as envie de parler?
J'adorerais m'asseoir avec le Dalai Lama. J'adorerais m'asseoir avec le pape. Tu vois, ce genre, c'est
de
même pas des personnalités, c'est des éminents, tu vois. C'est
ouais.
Effectivement, c'est des figures. Ça, ce serait,
pourquoi
ce serait incroyable. Parce que ces gens-là, on les entend jamais vraiment parler, tu vois. J'ai pas envie d'interviewer des hommes politiques, on les entend blablater toute la journée. Qu'est-ce que je vais leur poser comme question? Je m'en fous, tu vois. Par contre, ce genre de personnalités qui sont souvent terrées dans le silence ou qui doivent porter une cape très lourde de responsabilité, ça m'intéresse vraiment. Ce serait incroyable.
Est-ce que c'est aussi peut-être le rapport à la spiritualité qui t'attire?
Je pense.
Ouais.
Le rapport à la spiritualité, pardon. Et puis, non, j'allais dire quelque chose, mais je crois que je ne peux pas le dire. Donc je vais le garder pour moi, mais oui, le Dalai Lama et le pape.
Et le pape, très bien, interview de rêve. Question qu'on peut se poser aussi, aujourd'hui, toi, tu es très présente sur Internet. Est-ce que pour toi, tu vois, aujourd'hui, on est sur une radio, qui est un média qui est peut-être moins média de ta génération. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois un intérêt pour quelqu'un comme toi, demain, d'aller en télé, en télévision, à la radio? Est-ce que c'est des choses qui te semblent importantes de pousser ces portes-là? Ou pour toi, t'es sur YouTube, t'es sur Internet, et ça suffit?
Je cherche
pas. T'as peut-être déjà eu des sirènes, des gens qui t'ont appelé,
oui,
je ne sais pas.
Oui.
Et comment tu te positionnes par rapport aux médias généralistes?
Beaucoup de respect pour la radio, beaucoup de respect pour la télé. Mais je ne cherche pas forcément à en faire partie. Je ne pousse pas le trait, tu vois. Je fais pas d'appel de phare, je vais à tout prix travailler en radio, je vais à tout prix travailler en télé, ou en tout cas avoir des opportunités là-bas. Si un jour, en retour, la télé ou la radio me fait des appels de phare, bien évidemment que je me poserai et je regarderai ce qu'ils ont à me dire, parce que j'ai du respect pour ces plateformes, pour ces médias, comme tu l'as dit, originels. Et je trouve que c'est important que ce respect reste. Je trouve ça dommage, ceux qui partent du principe que les réseaux ont remplacé la radio. C'est pas vrai.
Ouais, t'es pas d'accord avec ça?
Je suis pas d'accord.
Okay.
Les réseaux n'ont pas remplacé la radio, sinon on serait pas là. Hein. France Inter cartonne, je pense pas que si les réseaux avaient remplacé la radio, ce serait le cas. Les gens ont besoin de ça.
On va écouter un dernier morceau.
Allons-y.
On va finir avec l'une des voix les plus emblématiques des années 2020, Georgia Smith.
Ouh.
Délicate et puissante, qui chante l'amour estival sur l'excellent With You. Georgia Smith avec le morceau With You. Et tout de suite, Sally, la question qui tue. Mais tu vas voir, aujourd'hui, elle tue pas tant que ça, la question. Enfin, elle est cool, j'espère, mais elle est pas tueuse. Sally, je vais reprendre une formule que tu utilises souvent, toi, dans tes interviews. À qui ou à quoi tu portes un toast aujourd'hui?
Alors, j'aimerais porter un toast aujourd'hui à tous les enfants, peut-être, qui vont écouter cette interview. Parce que, écoute, en arrivant aujourd'hui ici à France Inter, juste avant, j'avais un rendez-vous avec un enfant, parce que je suis en train de réaliser un documentaire là-dessus, un enfant qui était victime de violence. Tu vois, donc oui, un sujet un petit peu plus sombre que l'ambiance dans laquelle on était. Mais je lui ai promis que j'allais faire passer ce message qui est... Pour tous les enfants qui nous écoutent encore une fois, au-delà d'avoir confiance en eux, de savoir qu'il y aura des jours beaucoup plus brillants que ceux qui vivent. Et aux parents qui nous écoutent, arrêtez de rabaisser vos enfants. Arrêtez d'être méchants avec vos enfants. Arrêtez de les violenter. En fait, on ne se rend pas compte forcément de l'impact que ça peut avoir sur les enfants et sur leur vie. Mais c'est des blessures qui restent ancrées à jamais. Et c'est quelque chose dont je trouve on parle pas assez. Donc là, je veux vraiment profiter de ce petit moment, de cette voix que je peux avoir pour le dire. On ne se rend pas compte de ce que les enfants peuvent vivre derrière les portes fermées. À l'école aussi, la rentrée a repris. Si vous voyez des enfants qui sont seuls, qui sont dans leur coin, qui sont pas bien, qui veulent pas aller en cours, au lieu de directement dire que c'est des cancres, qui sont nuls, intéressez-vous à eux. Posez-leur des questions et essayez d'être proche d'eux et d'être leurs amis. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent énormément. Et encore une fois aux parents, écoutez vos enfants, arrêtez d'être rabaissant, négligent et plus d'amour, vraiment.
Sally, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de recevoir. On te retrouve sur les réseaux, sur YouTube. Voilà, plein de choses à venir, notamment un nouveau documentaire. Mais vraiment, j'étais très, très heureux de t'avoir aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Et merci évidemment à toutes les personnes qui ont préparé cette interview, cette émission. Alexia Lacour et Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était l'extraordinaire Laurent Baudouin. Merci aux équipes web et vidéo. Et on se retrouve lundi avec Yorfi pour découvrir ou redécouvrir nos émissions. Abonnez-vous sur l'application Radio France.